Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Les acteurs du Nord Kivu ne soutiennent pas l'option de réqualification de l'état de siège tel qu'annoncé par le chef de l'État. Ils pensent que la mise en pratique de cette mesure va créer la confusion au niveau de l'administration locale. Des réactions enregistrées hier à Goma au lendemain du discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ouverture hier à la prison centrale de Makala à Kinshasa du procès du journaliste Stanny Boujakera, détenu depuis plus d'un mois. Il a été signifié hier des 6 infractions présumées mises à sa charge. En attendant l'audience de vendredi prochain, le tribunal devra répondre à la demande de mise en liberté provisoire du journaliste. Et puis, la force de la MONUSCO a poursuivi cette semaine des opérations, notamment dans la zone affectée par l'activisme des rebelles Kodeko en Ituri, mais aussi à Kichanga au Nord Kivu, où sévissent des affrontements entre les groupes armés et le M23. Pour en parler, nous recevons l'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Madame, Messieurs, bonjour. Commençons par Goma. Au lendemain du discours du président de la République sur la réqualification de l'état de siège, des réactions ont été enregistrées. Certains acteurs sociopolitiques n'ont pas tardé à émettre leur point de vue sur cette question. Globalement, les acteurs du Nord Kivu ne soutiennent pas cette option quant à la réqualification de l'état de siège. Sifa Maguru a recueilli certaines réactions.
De manière générale, les acteurs du Nord Kivu se posent des questions sur la constitutionnalité de cette option de réqualification de l'état de siège. Certains pensent que la mise en pratique de cette mesure va créer la confusion au niveau de l'administration locale. Alexis Baunga, député provincial élu de Masisi.
Il serait intéressant pour les chefs de l'État de lever cette mesure qui n'a pas porté sa solution à la population. Comment une combinaison, une cohabitation sera faite entre les autorités civiles au niveau des mairies, au niveau des communes, des territoires et les autorités militaires? C'est encore une question des droits administratifs qui doit être clarifiée. J'attends à mon avis une ordonnance du chef de l'État qui devrait préciser.
Pour sa part, Espoir Ngaloukié, acteur politique local, pense que le chef de l'État devrait respecter les recommandations de la table ronde qui a exprimé la volonté du peuple à ce sujet.
D'abord, il faut signaler que cet allègement, il est d'abord illégal. Parce qu'aucun article de la Constitution n'en parle, aucune loi n'en parle. On va se rappeler que quand c'était l'état de siège, il y avait des prorogations qui étaient faites par les députés nationaux. On va proroger sur base de quoi? Et l'état de siège dans son ensemble, c'est une solution qui a déjà été rejetée par la population. Et je pense que les chefs de l'État devraient écouter les résultats de la table ronde. L'état de siège doit être élevé totalement.
Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Des milliers de personnes nouvellement déplacées dans le massif y vivent un calvaire humanitaire dans leur lieu de refuge. Ces ménages sont éparpillés à travers presque l'ensemble du territoire. Kichanga, Mweso, Kalembe, Kashuga, Nyabiondo et Pinga notamment. Ils ont fui la résurgence des violences armées opposant les groupes armés locaux au M23 depuis le 1er octobre dernier. Ces nouvelles personnes déplacées s'y sont ajoutées à plusieurs autres milliers qui sont en déplacement depuis plusieurs mois dans ce territoire. La coordination territoriale de Masisi qui appelle le gouvernement à intervenir dans l'urgence parle d'un calvaire humanitaire. Télésphore Mitondeke explique la situation au micro de Denise Lukeso.
C'est vraiment un calvaire inédit. Il y a des enfants qui sont exposés à la faim parce qu'ils n'ont pas à manger. Il y a des problèmes de soins de santé. Il y a des risques d'épidémie dans certains endroits. Et c'est déplacé sauf dans différentes familles d'accueil et pour certains, d'autres sont dans des sites spontanés et d'autres ont rejoint les anciens sites des déplacés existants à travers le territoire. Donc, une population exposée à la promiscuité avec tous les risques possibles. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous ne pouvons que lancer ces SOS, tendant à appeler, en tout cas, à la rescousse, c'est-à-dire, il faudra que les gouvernements congolais puissent en premier envisager une série d'assistances humanitaires en faveur de toutes les familles déplacées internes avant que nous n'appelions en SEGO les partenaires du gouvernement pour aussi apporter en tout cas leurs mains afin de sauver des vies humaines qui restent exposées.
Notez que OCHA a annoncé le report des interventions humanitaires prévues cette semaine en raison de l'intensification des combats. Parlons justice à présent. Je vous l'ai dit dans les titres, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a ouvert hier vendredi à la prison centrale de Makala à Kinshasa le procès du journaliste Stanley Boujakira Tchiamala, détenu depuis plus d'un mois. Les préventions mises à sa charge, à la charge du journaliste, lui ont été signifiées à la demande de sa défense qui veut s'imprégner du dossier. Le tribunal a remis l'audience au vendredi prochain, mais dans 48 heures partant de l'audience d'hier, le tribunal devra répondre à la demande de mise en liberté provisoire du journaliste. Explication de Jeff Ngoy Mulunda.
Quelques représentations diplomatiques sont venues assister à cette audience. Nous poursuivons un faussaire et non un journaliste, déclare le ministère public à l'entame de l'audience. Maître Charles Mouchizi, conseil de Stanislas Boujakira, réagit.
Ça c'est une fuite en avant parce que le ministère public ne nous dit pas quand est-ce que notre client s'est délesté de sa qualité de journaliste. Si le ministère public dit que le document qui a été prétendument publié et distribué par notre client est faux, il doit nous dire où est le vrai.
Pourquoi à ce jour la détention du journaliste de Genève Afrique est devenue irrégulière?
Sa détention est irrégulière parce que l'ordonnance qui confirme cette détention pour 15 jours est à ce jour foreclose. Donc le délai de 15 jours est largement dépassé. On est bien au-delà de 20 jours et donc notre client aujourd'hui est en prison pour plus d'une semaine sans aucune justification basée sur la loi.
6 infractions présumées sont mises à charge de notre confrère, notamment la contrefaçon et la falsification du sceau du département des sécurités intérieures de l'ANR, l'usage du sceau contrefait en l'opposant au rapport relatif à l'assassinat du député et ancien ministre Chérubin Okende, l'intention frauduleuse ou à dessein de nuire en usant du faux, la propagation sciemment de faux bruits.
Sud Kivu, signalons le lancement jeudi dernier des travaux de construction d'une nouvelle prison centrale de Kashusha, des infrastructures d'une capacité prévue de 3000 détenus pour l'amélioration des conditions carcérales. Les travaux rentrent dans le cadre du partenariat public-privé et vont durer 2 ans. Les détails avec Emmanuel Elameji Wakabedi.
L'actuelle prison centrale de Bukavu sera délocalisée à Kashusha, en territoire de Kabare, une trentaine de kilomètres de la ville de Bukavu. Les travaux de construction du bâtiment qui abritera différents blocs de détenus ont été lancés par Théo Ngwabidjekassi, gouverneur de province. C'était en présence du secrétaire général au ministère de la Justice venu de Kinshasa. Un bâtiment qui sera capable de contenir 3000 détenus avec une structure médicale moderne, 4 blocs pour les hommes et un bloc pour les détenus femmes et mineurs. Aussi 2 blocs pour les confessions religieuses, sans oublier un bloc pour les visites conjugales et un lieu récréatif. À cela s'ajoute un bloc de formation professionnelle, une bibliothèque, une école d'alphabétisation et 4 hectares pour les travaux champêtres. Les travaux qui rentrent dans le cadre du partenariat public-privé seront exécutés pour une durée de 2 ans. Signalons que l'actuelle prison centrale de Bukavu, d'une capacité d'environ 200 détenus, regorge plus de 1000 personnes. Le bâtiment ne répond même pas aux normes. Emmanuel Elamijoka Bédi, Bukavu Radio Kapi.
Autre nouvelle, la piste d'atterrissage de Bandundu est dans un état déplorable, piteux et dangereux et cela fait peur pour la sécurité des avions et des passagers. C'est le constat fait par le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes RVA qui est arrivé jeudi 12 octobre à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Aussitôt arrivé, Trifon Kinke Mulumba a visité la piste d'atterrissage de l'aéroport national de Bandundu dont il déplore l'état. Selon lui, son institution a le devoir de mobiliser des fonds afin de réhabiliter cette piste qui, toujours selon lui, mérite d'être fermée. Le PCA de la RVA a soulevé que plusieurs autres aéroports du pays méritent aussi d'être fermés parce que dans un état déplorable. Le point avec Irène Boma.
L'aéroport national de Bandundu se situe au centre-ville, dans la commune de Basoko. Selon les commandants de cette entreprise, les traversées permanentes et intempestives des populations y sont observées au quotidien. Longue de 1380 mètres et 35 mètres de largeur, sa piste d'atterrissage connaît déjà le vieillissement de la caperte avec la présence de plusieurs nids de poules et aussi des concassés pointus et tranchants. Pour Trifon Kinke Mulumba, président du conseil d'administration de la RVA en séjour à Bandundu et qui a fait la visite de prospection de la dite piste, cet état des choses constitue un danger permanent pour les avions qui atterrissent.
Un vrai danger ça là, parce que le pneu doit glisser, ça c'est le chaos. Regardez, ça fait même peur. Si l'avion arrive, il atterrit sur des trucs comme ça là, les pneus vont sauter. Nous avons mission de faire rapport et de mobiliser les moyens pour venir à bout de ces problèmes. Il n'y a pas que cet aéroport qui mérite d'être fermé. Donc si on ferme, il faut fermer tout.
Notez que la province de Kwilu compte des aéroports, à savoir celui de Bandunduville et celui de Kikwit, qui se trouve également dans un état déplorable, selon Kinkemulumba. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Province du Maniema, cette pétition initiée par l'ONG Maniema United de Jafari Kilongo Juvenal contre les entreprises de télécommunications mobiles Orange, Vodacom et Airtel. Elle a été déposée hier auprès du gouverneur de province intérimaire. Dans ce document, les pétitionnaires accusent ces trois entreprises d'escroquerie et de tromperie vis-à-vis de la population suite à la mauvaise qualité du réseau ces derniers jours. Le gouverneur intérimaire du Maniema a promis d'inviter les responsables des réseaux concernés. On écoute à ce sujet Maître Ngongo Amissi-Jacques, avocat conseil de l'ONG Maniema United. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes venus déposer notre pétition auprès du gouverneur de province concernant la mauvaise qualité des réseaux télécommunications Orange, Vodacom et Airtel. Nous avons déposé notre pétition pour que l'autorité puisse prendre des dispositions quant à ça. Nous demandons l'amélioration de la qualité des réseaux parce que vous-même vous avez constaté que les réseaux ne fonctionnent pas bien. Nous demandons à l'autorité qu'il puisse inviter les responsables de ces trois réseaux pour qu'ils puissent expliquer de quoi il s'agit, pourquoi il y a cette mauvaise qualité des réseaux Vodacom, Airtel et Orange. C'est suivant l'article 27 de la Constitution qui nous demande d'initier une pétition de manière individuelle ou de manière collective. Ces jours, nous avons plus de 2000 signatures que nous avons déjà réunies dans ce sens-là. Et de part et d'autre, on m'appelle pour que les gens puissent signer. Même dans des territoires, les gens m'appellent. Donc, nous aurons plus de 100 000 signatures. Nous sommes vraiment convaincus de ça. La population est en train d'appeler de part et d'autre et elle est intéressée de cette question. Après la pétition, nous allons poursuivre notre procédure au niveau du parquet général. Nous voulons que le procureur général aussi, par rapport à notre pétition, puisse s'impliquer afin d'interpeller les responsables et que chacun réponde de ses fautes.
Dans l'actualité aussi, la Journée mondiale de la prévention routière est célébrée le 13 octobre de chaque année. Son but est d'interpeller la conscience des conducteurs et usagers de la route à adopter des attitudes responsables sur la chaussée afin d'éviter les casses et les pertes en vies humaines. À Beni, la police de circulation routière a saisi cette occasion pour rappeler aux conducteurs le respect de certaines mesures préventives afin d'éviter les accidents sur la voie publique et aux parents d'éviter de céder le volant aux mineurs. On écoute à ce sujet le commissaire principal Claude Kasereka, commandant second de la police de circulation routière dans la ville de Beni. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Vous savez, quand on roule sans permis de conduire, dans l'article 118, il est souvent interdit de rouler sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule. L'excès de vitesse aussi, si vous lisez ça, l'article 104, toujours le même code de la route, là, c'est tellement interdit de rouler quand on a pris la boisson, on n'est pas autorisé de prendre le volant sur la voie publique. Donc là, nous recommandons à tous les agents de la route de viter le surchargement d'abord, le défaut de chargement que font l'article 40, 42, 43, puis ça cause aussi des accidents aussi. Là, nous recommandons aux conducteurs d'aller à la Sainte-Père apprendre à conduire pour être de bons conducteurs. La Sainte-Père est là pour former les chauffeurs professionnels pour qu'ils soient de bons conducteurs. Il est souvent interdit de rouler à vie valide. L'excès de vitesse, c'est une sorte de faute, mais amène aux infractions comme des lésions ou d'homicides involontaires. Alors, là, nous recommandons aux gens d'être prudents toujours sur la chaussée pour éviter les casses. Quand on attrape un enfant au volant, d'office, c'est son parent qui va subir le peine qui peut combler à cet enfant-là. Parce que l'enfant, c'est mineur. On suppose que l'enfant ne connaît rien.
Actualité internationale.
Nous sommes au Proche-Orient. L'exode des habitants de Gaza continue. Plus de 3200 morts en une semaine depuis le déclenchement d'un nouveau conflit il y a une semaine avec les attaques sanglantes perpétrées par le Hamas en Israël. Le bilan dépasse les 1300 morts côté israélien et 1900 morts dans la bande de Gaza. La Russie veut soumettre au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution réclamant un cessez-le-feu. Des militants d'une dizaine de pays du monde ont jugé mercredi le FMI et la Banque mondiale coupables d'alimenter les inégalités du fait de la collusion entre le secteur financier et les puissantes sociétés multinationales. Lors de ce tribunal populaire, les militants ont appelé les deux institutions à ne plus travailler avec les pays riches. D'après le verdict, le jury des différentes organisations présentes a appelé ces institutions à œuvrer de façon égalitaire en allégeant les conditions d'emprunt pour les pays à faible revenu ou en annulant simplement les dettes colossales des pays concernés.
L'invité.
La force de la MONUSCO a poursuivi cette semaine des opérations, entre autres, dans la zone affectée par l'activisme des rebelles Kodeko en Ituri, mais aussi dans la zone de Kichanga au nord Kivu, où sévissent des affrontements entre les groupes armés et le M23. Pour en parler, nous recevons l'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, le major Hassan Keira, dans cet entretien accordé à Bernardin Nyangi.
Major Hassan Keira, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, la situation au nord Kivu, précisément à Kichanga, est toujours dégradée puisque les affrontements entre l'M23 et les membres d'autres groupes armés continuent de faire fuir les civils. Comment la MONUSCO gère-t-elle la situation?
L'intensification des combats entre les groupes armés à Kichanga ne fait que dégrader la situation sécuritaire dans la zone. Face à cette crise humanitaire, la MONUSCO renforce sa présence à Kichanga pour protéger les civils pris dans les affrontements entre les M23 et les membres d'autres groupes armés. Au cours du week-end dernier, de nouveaux combats entre ces groupes ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons. Environ 2000 personnes ont trouvé refuge dans la base de la mission de l'ONU à Kichanga et 18 000 hommes, femmes et enfants se sont réfugiés à l'extérieur de la base. La MONUSCO intervient également pour faciliter le déplacement des IDP. Je donne un exemple concret de cette intervention. Une route principale était complètement bloquée à cause d'un accident de circulation au nord de Mueso. L'action des casques bleus a permis de récupérer le véhicule en toute sécurité, mais aussi de rétablir le trafic normal en direction de Kichanga. De plus, pendant le dialogue interactif sur la situation des droits humains à Genève le lundi 9 octobre, Madame la SRSG a appelé le M23 à démanteler son administration parallèle et à revenir à ses positions sur le terrain telles que définies dans la feuille de route de Luanda.
Et d'autre part, il y a le secteur de l'Ituri aussi qui ne manque toujours pas d'action de la part des groupes armés.
Oui, des membres du groupe armé Kodeko ont incendié des maisons à Jissa et à Niale et ont tiré des coups de feu dans les zones avoisinantes Jissa à 20 km sud-est de Djougou le 6 octobre dernier. De ce fait, la MONUSCO a déployé ses troupes qui ont tiré des coups de semences et les assaillants ont fui la zone. La force MONUSCO a conduit aussi des patrouilles dans la zone pour anéantir toute activité négative conduite par les groupes armés, dans le but d'assurer la protection des civils.
Et on peut aussi dire qu'au sud Kivu, le personnel de l'ONU n'est pas à l'abri des actions criminelles des groupes armés. Et cela se manifeste d'ailleurs par l'enlèvement d'un agent du HCR.
Oui, le 7 octobre dernier, des bandits armés ont ouvert le feu sur deux véhicules du HCR. Un véhicule a réussi à s'échapper sans encombre, mais le second véhicule a été piégé et ses bandits armés ont kidnappé un membre de l'agence. La force de réaction rapide du PACARDP a été immédiatement envoyée sur le site de l'incident pour secourir les éléments du HCR bloqués. La force a contacté le bataillon des FARDC pour qu'il envoie une patrouille sur le site de l'incident et le commandant des FARDC s'est assuré de poursuivre les coupables dans la jungle en direction de la zone du plateau central. Cet otage a été enfin libéré après des négociations fructueuses. Et le 7 octobre 2023, au cours d'une patrouille nocturne de routine de PACARDB MONUSCO à Kambale, un véhicule a été intercepté par des bandits armés non identifiés. Le chef de la patrouille et un représentant des FARDC se sont entretenus avec le chef des individus armés pour résoudre le problème. Une patrouille conjointe avec des effectifs renforcés en accord avec les FARDC et la PNC a été menée pour dominer la zone et maintenir la liberté de mouvement.
Cet incident du sud Kivu survient malheureusement quelques temps après la célébration de la Journée internationale de la non-violence. Comment cette journée est-elle célébrée par la force et quel message la force entend transmettre?
La Journée internationale de la non-violence du 2 octobre est une occasion de diffuser le message de la non-violence par l'éducation et la sensibilisation du public. Cette journée a été célébrée par la force avec la population locale afin de promouvoir le désir d'instaurer une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. Au sud Kivu, la section pakistanaise d'engagement a organisé une session interactive avec la communauté locale pour célébrer cette journée. Les habitants ont été encouragés à cultiver la culture de la paix, de la tolérance entre eux et à la promouvoir collectivement en tant que communauté. La population disposait de pancartes sur lesquelles étaient inscrits les messages suivants. Pas de violence, promouvoir la paix, se comprendre les uns les autres et se protéger les uns les autres.
La MONUSCO applique la politique de zéro tolérance en matière d'exploitation et abus sexuels. Comment alors la mission se comporte-t-elle suite à de telles infractions au sein de ces unités?
Le bureau des services de contrôle interne a pris des mesures de précaution à la suite d'informations faisant état de fautes graves commises par des soldats de la paix qui auraient fréquenté des lieux où se pratique le sexe transactionnel. Dans un premier temps, les soldats de la paix ont été suspendus de leurs fonctions, détenus et confinés dans les quartiers des soldats de la paix concernés en attendant de recevoir des informations supplémentaires sur les allégations résultant d'une enquête approfondie.
Major Hassan Keira, merci.
Merci beaucoup.
L'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO dans le Nord Kivu répondait aux questions de Bernardin Nyangui. Par ici prend fin ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, coordination de Jacques-Yves Molima Aouta et Polydor Bassonga à la mise en onde. Merci de votre attention.